Histoire Afrique, les infos à Washington.
En votre compagnie, Nanite Talani, il est exactement 14h à Abala, Bouza et Diffa, c'est au Niger. Au Mali, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté ce jeudi matin Bamako pour se rendre sur les lieux de la tuerie du village Dogon de Sobaneda, dans le centre du pays, d'après une annonce de la présidence. Il apporte ses condoléances aux familles des disparus, sa compassion et son réconfort aux blessés, affirme la présidence, qui rappelle que M. Keïta a écourté une visite officielle à Genève pour rentrer au Mali mardi, le jour où le Premier ministre Boubou Cissé s'est lui-même rendu sur place. Ce n'est pas à un cycle de vengeance de vendetta que ce pays doit être conduit, a déclaré à Genève monsieur le président Keïta. Dans ce déplacement au village où il est attendu, monsieur Keïta sera accompagné d'une forte délégation comprenant le cardinal Jean Zerbo, le pasteur Marc Goïta et 6 ministres selon le texte. Et lors du conseil des ministres hier, le chef de l'État a proclamé un deuil national de 3 jours et le gouvernement a révoqué le gouverneur de la région de Mopti, le général Sidi Alassane Touré. Le virus Ebola a fait une deuxième victime dans l'ouest de l'Ouganda, dont les autorités s'efforcent de contenir l'épidémie apparue en 2018 en RDC. La deuxième victime, morte hier soir, est la grand-mère du garçonnet de 5 ans décédé du virus 24 heures plus tôt à Bwira, dans le district de Kasese frontalier de la RDC. Les deux victimes avaient assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques en RDC d'un proche décédé d'Ebola. Toute la famille était rentrée en Ouganda où le ministère de la Santé les avait placés en quarantaine après avoir diagnostiqué une contamination de 2 enfants de 5 et 3 ans et de leur grand-mère de 50 ans. 8 autres personnes qui ont été en contact avec les victimes ont également été placées en observation à l'isolement. Au total, ce sont 27 personnes qui ont été mises sous stricte surveillance selon l'Organisation mondiale de la santé qui a annoncé hier la tenue d'une réunion de son comité d'urgence sur l'épidémie en RDC. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Ce sera la 3e réunion du comité d'urgence de l'OMS depuis le début de l'épidémie en août dernier. Le comité se réunit pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale, a indiqué l'OMS. La décision finale reviendra au directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'épidémie a été déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu, dans le nord-est de la RDC. Le pays n'a pas encore réussi à enrayer l'épidémie à cause des attaques de milices ou de l'hostilité de la population vis-à-vis des centres de soins. Ainsi, de nouveaux cas ont été enregistrés en Ouganda, où le virus a tué un garçon de 5 ans. 2 membres de sa famille ont été mis en quarantaine, d'après la ministre ougandaise de la Santé, depuis 1966. C'est la 10e épidémie en RDC. Plus de 2000 cas ont été enregistrés, dont les 2/3 sont morts. En Afrique de l'Ouest, en 2014, le virus Ebola avait fait quelques 11 000 morts.
Le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga, revient sur les circonstances de la mort de l'enfant tué par Ebola en Ouganda et les mesures de précaution qui ont été prises.
C'est un enfant de 5 ans dont la maman est congolaise. Le père est ougandais, c'est une famille qui vit en Ouganda, qui était venue en RDC pour au chevet du père de la maman. Et le père est décédé d'Ebola le 27 mai 2019. Donc la famille avait été listée comme contact. Donc lorsque la famille est en quarantaine, si on peut dire, durant l'isolation, certains membres de la famille ont traversé en Ouganda. Et dès qu'elles ont traversé en Ouganda, nous avons contacté les autorités ougandaises en leur transmettant. Du côté de l'Ouganda, ils ont fait donc une investigation approfondie. Ils ont identifié 8 contacts, 8 personnes qui étaient en contact avec cette famille. Et les autorités ougandaises, à partir de ce vendredi, vont vacciner les 8 contacts, tous ces contacts des contacts, ainsi que s'assurer que tous les professionnels de la santé dans le district sont vaccinés. Jour, il y a 25 000 personnes qui traversent à Kasindi, que depuis le début de la riposte sur 10 mois, il y a 65 millions de personnes qui ont été contrôlées aux différents points de contrôle. Il y en a environ 80. Donc le fait que pendant ces 10 mois, nous soyons parvenus à contenir l'épidémie.
En Algérie, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sélal est entendu aujourd'hui dans le cadre d'une enquête pour corruption par la Cour suprême compétente pour instruire les faits commis par de hauts responsables dans leurs fonctions, rapportent les médias publics algériens.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Cameroun, le gouvernement a annoncé hier soir que le bilan de l'attaque des combattants de Boko Haram contre la localité de Darak dans l'extrême nord s'établit à 88 morts. Ce bilan a été rendu public 72 heures après de violentes attaques. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
16 militaires camerounais ont été tués dans la localité de Darak, une île située à proximité du lac Tchad, au cours d'une attaque des combattants de Boko Haram, a annoncé hier Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. L'attaque a été menée par plus de 300 combattants lourdement armés dans la nuit de dimanche à lundi dernier, a précisé le communiqué du ministre. Selon lui, 6 civils camerounais ont été tués, 64 combattants de Boko Haram abattus, 8 capturés. Plusieurs blessés et en fuite. L'armée camerounaise a livré des violents combats pendant plusieurs heures. Elle a dû faire appel à des renforts d'éléments déployés dans le cadre du secteur 1 de la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad pour riposter à cette attaque. 8 soldats camerounais ont été blessés, selon le ministre de la Défense, qui assure que les forces de défense ont repris le contrôle de la zone. Depuis 2015, le Cameroun lutte contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord avec l'appui des comités de vigilance. De nombreuses localités de la région ont été vidées de leurs habitants et l'économie locale fragilisée dans cette partie du Cameroun à la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Au Maroc, le procès des assassins présumés de deux jeunes touristes scandinaves décapités en décembre dans le sud a repris aujourd'hui à Salé, près de Rabat, après les aveux des principaux suspects sur leurs rôles respectifs dans la tuerie. Le chef présumé Abdesamad Ejoud, un repris de justice devenu imam, a reconnu lors de la dernière audience avoir assassiné une des deux touristes au nom de l'État islamique. Ce marchand ambulant de 25 ans a admis avoir organisé l'expédition meurtrière avec Younes Ouaziyad, qui a reconnu avoir décapité la seconde touriste, et Rachid Afati, qui a admis avoir filmé le double meurtre. Les meurtriers avoués risquent théoriquement la peine de mort, toujours prononcée au Maroc, même si un moratoire est appliqué de facto depuis 1993. Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, est arrivé hier à Khartoum en compagnie de l'ex-diplomate Donald Booth, nommé émissaire spécial des États-Unis pour le Soudan, afin d'aider à trouver une solution pacifique à la crise. Pour sa part, le mouvement de contestation exige des garanties international avant de mettre en œuvre tout accord avec les généraux au pouvoir. À Khartoum, magasins et restaurants ont commencé à rouvrir mercredi, donc hier, après la décision des contestataires de mettre fin au mouvement de désobéissance civile lancé après une répression meurtrière afin de donner une chance à une reprise des pourparlers.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Ici aux États-Unis, le président américain était initialement interrogé sur le cas de son fils aîné Donald Trump Jr. qui, pendant la campagne présidentielle de 2016, avait participé à une réunion à la Trump Tower de New York avec des personnes qu'il pensait mandatées par MONUSCO. À nouveau entendu mercredi par le Sénat américain, Donald Trump Jr. a déclaré en avoir fini avec l'enquête de la commission du renseignement. Les précisions d'Irénée Herman Ngbo.
Je suis heureux que ce soit enfin terminé. Nous avons pu clarifier les choses, a déclaré Donald Trump Jr. après un peu moins de 3 heures d'audition à huis clos devant la commission du renseignement. Il a déjà été entendu pendant de longues heures par différentes commissions sénatoriales en 2017. Le président Donald Trump s'était dit très surpris en mai par la nouvelle convocation de son fils par cette commission du Sénat contrôlée par les Républicains. Les sénateurs voulaient revenir sur certaines de ses déclarations qui auraient pu contredire d'autres témoignages. Ils l'ont questionné sur une réunion avec une avocate russe à la Trump Tower de New York en juin 2016, en pleine campagne présidentielle. Selon la presse américaine, les sénateurs voulaient aussi l'interroger sur un projet de construction d'une Trump Tower à Moscou pour comparer ses affirmations à celles de Michael Cohen.
Pour terminer, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a indiqué qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'un cessez-le-feu avait été mis en place à Idlib, en Syrie. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique.